Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
Et bienvenue sur IDFM Radio, votre radio valdoisienne en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli. Ensemble pour les 90 minutes qui vont suivre. Merci d'être avec nous et belle matinée. Économie sociale et solidaire, hôtellerie, restauration, quelles synergies et quelles dynamiques peuvent exister entre elles? C'est ce que nous allons explorer ce matin dans l'économie en direct. Aujourd'hui, mardi 20 mai 2025, j'ai le plaisir d'accueillir Rodolphe Nollet. Bonjour Rodolphe.
Bonjour à vous.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Responsable de l'entrepreneuriat engagé chez Initiative, vous nous expliquerez votre rôle et les projets pour établir ces liens d'échange qui visent à avoir un impact positif sur la société.
Avec plaisir.
À vos côtés, Shafia Hamadi. Bonjour Shafia.
Bonjour Jacqueline.
Ravie de vous accueillir de nouveau chez IDFM Radio. Chef d'entreprise, présidente de l'auberge du Château Bleu à Tremblay en France. Avec nous pour nous présenter ce haut lieu gastronomique et les défis qui s'y rattachent.
À tout à l'heure.
Découvrons comment l'économie sociale et solidaire et l'hôtellerie-restauration peuvent s'inspirer mutuellement pour un avenir plus durable et inclusif. Mais avant de vous donner la parole, retrouvons ce matin notre analyste géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, dans le cadre de sa rubrique « Décryptons le monde », une chronique qui s'intitule j'ai oublié le titre, c'est vous qui allez nous le donner, Gérard. Bonjour Gérard.
Les États-Unis s'éloignent-ils d'Israël?
Voilà, merci.
Bonjour Jacqueline.
Merci, j'avais oublié de le noter. Les États-Unis s'éloignent-ils d'Israël? Alors, merci. Bonjour Gérard et merci d'être avec nous ce matin. Alors, la question que je vous pose à chaque fois, c'est pourquoi ce titre?
Eh bien, parce que effectivement, nous avons assisté à un voyage important de Donald Trump dans la région du Moyen-Orient. Et il y a des grandes différences entre le voyage qu'il vient d'entreprendre et celui qu'il a déjà entrepris en 2017, lors de son premier mandat. Et cette différence entre les deux voyages à 8 ans d'écart, à savoir l'absence cette année d'un arrêt en Israël qui avait été une étape de 2017. Cela constitue une importante différence qui illustre notre sujet du jour, à savoir un signe d'éloignement, de distorsion des relations entre les deux pays.
Oui, et donc pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces distorsions?
Eh bien, au cours des trois étapes du voyage de Donald Trump en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis, le président américain s'est fortement affiché en homme du développement économique, plaçant ce dernier à la fois au service de l'amélioration de la vie des citoyens et au service de la paix entre les peuples de la région. Il a martelé ce thème à chacune des étapes de son voyage. Il en a même profité pour interpeller l'Iran en l'incitant à s'engager dans une nouvelle voie, justement celle du développement économique pour ses citoyens, au lieu d'investir dans l'armement, le nucléaire et la déstabilisation régionale. dans cette thématique impliquant naturellement les investissements dans les nouvelles technologies, son ami technologique Elon Musk s'est exprimé sur cette thématique lors d'une conférence à Riyad consacrée à ce thème. À l'opposé, on constate le positionnement de Benjamin Netanyahou, impliqué depuis 18 mois dans les destructions physiques et humaines dans la bande de Gaza. Ce parallèle est saisissant.
Ce premier volet entre Donald Trump, homme de développement, et le premier ministre israélien impliqué dans les destructions de Gaza éloigne en effet les images et les réalités dont les deux hommes sont porteurs. Voyez-vous d'autres différences ?
Nous avons assisté à une rencontre qui, si elle avait été naturellement préparée, n'avait pas été divulguée. Il s'agit de la poignée de main entre le président américain et le président intérimaire, entre guillemets, de Syrie, Ahmed al-Shara, issu des rangs du djihadisme. Il a devant lui l'énorme tâche, Bachar Ahmed al-Shara, de réunir une Syrie divisée et de reconstruire une économie détruite par 13 ans de guerre civile. Donald Trump a annoncé son intention de lever les sanctions à l'encontre de ce pays, sanctions liées aux exactions du précédent régime. Il s'affiche donc à nouveau par la surprise et très concrètement par l'économie, comme un homme totalement orienté vers le développement des pays de la région, au moment où Israël continue de mener des frappes contre les milices en Syrie. À nouveau, étonnante différence et divergence de chemin. Ce même écart s'affiche d'ailleurs au sujet du Yémen, où les États-Unis ont conclu un accord avec les Houthis, ces derniers arrêtant leur bombardement en échange d'un arrêt des frappes des missiles Houthis sur les navires de la mer Rouge. Par contre, les frappes israéliennes continuent sur les infrastructures au Yémen, comme les Houthis continuent eux aussi d'envoyer des missiles vers l'État hébreu. À nouveau, différence de situation et de stratégie.
Oui, on aboutit en quelque sorte à un choc d'image entre les deux dirigeants américains et israéliens.
Tout à fait. Donald Trump cultive son image d'homme de paix, tandis que Benjamin Netanyahou ne montre aucune hésitation à poursuivre son affrontement militaire avec le Hamas, en espérant obtenir de cette façon la libération des otages israéliens. Donald Trump ne cache nullement vouloir obtenir le prix Nobel de la paix, tout comme Barack Obama, son opposant politique et président des États-Unis comme lui, l'avait obtenu en 2008. L'ego des hommes politiques prend quelquefois des chemins étonnants, mais ici, la rivalité s'avère positive.
Alors, voyez-vous finalement, à travers ces comparaisons, apparaître un éloignement entre les deux pays et les deux politiques ?
Il est nécessaire, Jacqueline, de différencier le court terme et le long terme. Sous nos yeux, et donc à court terme, nous voyons se dessiner des situations et des positionnements politiques différents entre les deux dirigeants. Mais, dans le long terme, il ne paraît pas possible d'envisager Washington autrement comme l'allié indéfectible d'Israël. L'alliance politique entre ces deux pays, démocratiques, continuera de se concrétiser par le soutien financier et militaire des États-Unis. La contribution annuelle américaine se situe autour de 5 milliards de dollars et implique des programmes militaires importants. Leur chemin vis-à-vis de l'Iran peuvent en façade se différencier, mais ils convergent vers l'impérative nécessité d'un Iran non nucléaire. La situation peut donc se résumer dans la formule « des différences, oui, mais des divergences, non ».
Merci Gérard. Alors j'ai peut-être une question un peu joker à vous poser. Vous avez évoqué Elon Musk. Elon Musk a complètement disparu des radars en ce moment.
Il était quand même à Riyad, voyez-vous, donc il continue à se placer comme un homme du développement technologique, beaucoup plus que comme un homme politique en charge de changer le management, la gestion du gouvernement américain.
Très bien. Ben merci pour ce décryptage impliquant l'Orient compliqué, comme le décrivait le général de Gaulle. Et voilà, c'est la fin de notre chronique Décryptons le monde. Et je rappelle à nos auditrices, auditeurs, que vous pouvez retrouver tous les écrits et interventions de Gérard Vespierre sur son site www.lemondedécrypté.com. L'abonnement y est gratuit, il suffit juste de s'inscrire. À bientôt, Gérard.
Merci, Jacqueline. À bientôt.
À bientôt. Au revoir. Voilà, il est temps de faire une pause et nous retrouvons juste après mes deux invités. À tout de suite.
Paris, c'est la ville des amoureux.
Elle habite à Paris depuis moins de 3 mois, mais elle a déjà tout le mode d'emploi. Elle emporte tout plein de mots que je connais pas, roule en Vespa. Ses amis ont des prénoms étranges, Béné, Alix, Fix et Lisange. C'est ça, c'est pas leur prénom, non, qui me dérange, ni leur frange. Elle me dit tout le temps qu'il faut qu'on se capte et qu'on brunch ensemble un de ces quatre. Qu'on se mate une expo au 104, Larry Clark. Pourquoi pas, mais pas demain, car madame est surbookée, toujours bloquée sur son MacBook. Et quand elle me dit qu'on peut se croiser sur Facebook, c'est le bouquet.
Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change.
Elle habite Paris, c'est pas que je critique, c'est si différent. Passer le périphérique, c'est plus les mêmes musiques, les mêmes tuniques. Sa mère, ses potes et ses votes catholiques. Je la vois moins souvent parce que madame, oui, part à la mer pour Pâques. Ses amis ont des grandes baraques, Saint-Briac. Connais pas, moi ma ganache, tapache et mon accent. Je sais ça fait sourire ses amis bien pensants. Et pourtant je l'attends souvent dans le vent. J'aimerais qu'elle redevienne un peu comme avant. Les ailes sont verrites, c'est Thomas Bio et son iPhone. Son terrier de Boston, moi la pluie me bastonne. Pendant que je galère des heures à l'interphone. Mais y'a personne.
Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change.
Madame est chic, apéro paré au bord de Seine. Madame se complique, la vie à être une bohème. Madame est chic, américaine apparaît à H&M. C'est une hippie chic. Mais elle est où, la dame que j'aime?
Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends rien de ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris, elle a des converses blanches. Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change.
Elle habite Paris, je crois qu'elle m'oublie. Elle a de nouveaux amis, tu sais, de nouveaux habits. Et moi je traîne voir de scène, mais elle est où, la dame que j'aime? Je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pour le cœur, qu'elle ne change.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Vous êtes bien sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct avec à mes côtés Rodolphe Nollet, responsable de l'entrepreneuriat engagé chez Initiative, Shafia Hamadi, chef d'entreprise, présidente de l'auberge du Château Bleu à Tremblay en France. Rodolphe Nollet, Initiative est une entité souvent citée dans cette émission, l'économie en direct. Peut-être rappelez-nous les fondements de cette structure qui accompagne bon nombre de mes invités et la radio, entre parenthèses.
Alors, en effet, Initiative 95-78 intervient sur deux départements, le Val-d'Oise et les Yvelines, mais On a des entités partout en France. Hein. On en parlera tout à l'heure avec l'autre invité, puisqu'on fait partie de deux grands réseaux qui sont Initiative France et France Active, et qui sont là pour accompagner, financer. Accompagner, si je devais résumer, la réussite des dirigeants et des dirigeantes.
Et donc, on comprend que vous intervenez en effet dans pas mal de financements. Quels sont les avantages de ces solutions de financement ?
Alors, les solutions, c'est déjà des solutions humaines, c'est-à-dire qu'on va proposer un accompagnement de A à Z pour les porteurs de projets entrepreneuriaux. Donc, on va les accompagner dans leurs réflexions, on va les coacher pour qu'ils soient le plus à même à bien démarrer. Et après, en effet, on a des outils qui sont performants et qui peuvent faire levier sur des prêts bancaires ou sur d'autres financements comme les garanties ou les prêts d'honneur, par exemple.
Et puis, des différés dans les remboursements, ça c'est important.
Voilà, on a des différés en particulier pour tout ce qui est entreprise sociale et solidaire. Donc des différés qui peuvent aller jusqu'à 24 mois.
Très bien. Je crois qu'on peut dire aussi que votre action fait que vous êtes un effet levier sur la banque.
Oui, puisque grâce à notre réseau France Active, on intervient en plaçant des garanties bancaires, puisqu'on sait que beaucoup de porteurs ont des difficultés à pouvoir trouver des prêts bancaires pour X raisons, donc des situations sociales. Les femmes aussi ont plus de difficultés à pouvoir lever des prêts bancaires, et avec cette garantie, on se porte en gros caution auprès de la banque. Donc, ce qui permet à la banque d'y aller plus facilement. Mais encore une fois, au-delà de l'outil, c'est vraiment l'accompagnement qui va permettre aussi à la banque de montrer que le projet est viable.
Et je crois qu'il faut peut-être insister aussi sur le fait que vous avez l'habitude de dire, enfin je dis vous, l'ensemble de l'équipe d'Initiative, que vous ne voulez pas du tout vous substituer à la banque. Hein. Vous êtes là pour justement pour cet effet levier dont on vient de parler.
Oui, oui. La banque est partenaire en fait. On intervient toujours en cofinancement. En tout cas, les banques viennent en cofinancement de nos outils.
Alors vous, Rodolphe, en tant que responsable de l'entrepreneuriat engagé, on parle des entreprises d'économie sociale et solidaire, hein, ESS. Vous-même, alors déjà, peut-être nous dire est-ce que vous financez ces entreprises différemment des autres entités ou c'est le même schéma ?
Alors, on va plutôt intervenir. Alors, sur l'économie sociale et solidaire, c'est un champ qui est très vaste, avec différents métiers. Ça peut être, on peut très bien avoir du bâtiment, comme du sport, comme de la culture, la radio, par exemple. Donc, c'est un champ qui est très large. Et on va intervenir avec des outils qui sont un peu plus importants que par exemple l'entrepreneuriat classique. Et surtout intervenir plus en développement, en consolidation des projets. On va peu intervenir sur de la création, même si on peut. Les dirigeantes et les dirigeants qui viennent nous voir sont plus dans des phases de consolidation ou de développement d'activité.
Et dans ce cas-là, les moyens investis sont différents ?
Alors, les moyens investis sont de l'ordre en moyenne de 200 000 euros, mais on n'a pas de plafond. Si, par exemple, une entreprise engagée, en particulier, par exemple, dans la recyclerie, venait nous voir, on pourrait très bien arriver à plus de 500 000 euros. Ma collègue monte un dossier, là, à 600 000 euros. Avec les cofinancements, on atteint un tour de table d'1 million.
Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une belle... faudra nous dire hors antenne de qui il s'agit.
Oui, et avec évidemment des, un impact sur le territoire en termes d'emploi ou d'activité.
Bien sûr, bien sûr. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par cette question parce que c'est vrai qu'à l'antenne, on parle souvent d'économie sociale et solidaire, mais peut-être est-il utile de rappeler aussi à nos auditrices auditeurs ce qu'est l'économie sociale et solidaire.
Oui, c'est un terme que tout le monde, à mon avis, s'approprie en pratique.
Oui, puisque vous pensez que c'est un peu galvaudé.
Voilà. Bah, disons que si on parle d'économie sociale et solidaire dans la rue, beaucoup de gens ne vont pas savoir ce que c'est. Et pourtant, ils vont pratiquer cette économie en allant dans les clubs de sport, dans la culture, ne serait-ce que je parlais des recycleries tout à l'heure, en triant leurs déchets, généralement, les déchets vont dans une entreprise qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. Le service à la personne également fait partie de l'économie sociale et solidaire. Donc les métiers sont très larges. Je dirais que c'est le terme qui est un peu compliqué, mais tout le monde pratique.
Puisque de la façon dont vous le présentez, on peut dire que cette économie est assez importante dans le système économique en général.
Oui, ça. Alors, on est à 10% du PIB en France dans ce champ-là, de l'économie sociale et solidaire. Mais encore une fois, on est sur quelque chose de très large, puisque par exemple, les banques mutualistes en font partie. Donc forcément, ça va faire grimper le taux.
Oui, et pour rappel, donc, vous l'avez dit au début de l'interview, cette économie sociale et solidaire est un mode d'organisation économique qui place l'humain au cœur du projet.
Voilà, ce qui différencie les entreprises faisant partie de l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle engagées, c'est qu'elles vont mettre l'humain, le salarié par exemple, ou le client au centre de leur affaire. C'est par exemple une entreprise dite d'insertion, donc avec un agrément d'État qui va travailler dans le BTP et qui va faire appel à des salariés qui sont désocialisés, qui ont peu de diplômes, peu d'expérience. Et le but de cette entreprise, c'est en effet de répondre à des marchés dans le classique, avec des appels d'offres ou des différents chantiers, mais également dans le cœur de son métier, ça va être de former les salariés pour qu'ils puissent s'insérer ensuite dans le marché du travail dit classique.
Mmh. Oui, encore une fois, c'est l'humain qui est au cœur du projet, plutôt que la recherche du profit maximal, même si le profit est quand même important pour que l'entreprise vive.
Disons que le profit, de toute façon, il est indispensable, justement, pour le projet social.
Mmh. Alors, vous nous avez cité la radio, des salles de sport, il y a des coopératives, des associations, des mutuelles, des fondations. Et en même temps, votre entrepreneuriat engagé permet d'ouvrir le champ à des entreprises qui ne sont pas si stricto sensu dans l'économie sociale et solidaire.
Oui, on a fait le choix à initiative d'ouvrir aussi aux dirigeants qui ont des appétences justement dans un entrepreneuriat qui va faire le bien commun. Par exemple, je prends l'exemple d'une boulangerie qui ferait uniquement du pain biologique, par exemple, mais qui n'a pas forcément d'agrément d'État, qui est en voie d'aller sur le champ de l'économie sociale et solidaire. C'est une forme, donc on ouvre un petit peu le spectre, justement,
le champ, oui.
dans nos interventions. Et notre rôle, c'est d'accompagner ces dirigeants en herbe, entre guillemets, engagés, à le devenir encore plus. Donc on a, voilà, en accélérant, en les sensibilisant sur différents aspects, par exemple des aspects de gouvernance plus démocratique, en les mettant, voilà, en leur disant que, par exemple, d'avoir une politique salariale respectueuse, en faisant participer les salariés à la stratégie de l'entreprise. Voilà. Donc, on essaye de les faire grandir sur ce champ-là.
C'est ça. Oui, aussi, respect de l'environnement, mais...
Le respect de l'environnement fait partie, oui.
Rodolphe, avant de terminer de continuer cette interview, je vous propose qu'on fasse une courte pause et on va parler des projets à impact dont Initiative est à l'origine. Merci.
Avec plaisir.
Vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM.
IDFM Radio 98 FM.
C'est l'économie en direct et ce matin, deux invités avec moi, Rodolphe Nollet d'Initiative et Shafia Hamadi de l'auberge du Château Bleu. Alors, Rodolphe, on a bien décrit l'ADN de Initiative. Un ADN qui ne fait que s'enrichir, je crois, au fil du temps. Et vous avez plusieurs projets qui émergent au fur et à mesure des mois qui passent.
Oui, alors on a énormément de projets. Je peux vous en citer quelques-uns qui sont en cours. C'est par exemple, on essaye de faire filière au sein de notre accompagnement, c'est-à-dire qu'on va accompagner des dirigeants qui ont le même métier. Par exemple, mes collègues là sont en train d'accompagner des dirigeants de ce qu'on appelle des entreprises adaptées, donc qui sont dans le champ classique. On a des travaux d'espace vert, du bâtiment, du recyclage informatique, mais elles ont ces dirigeants ont comme particularité d'accompagner des personnes handicapées.
D'accord.
Avec handicap. Donc là, c'est de travailler, de faire rencontrer des dirigeants qui ne se connaissaient pas, qui avaient certes des métiers différents, mais une mission commune, celle de faire travailler du personnel avec handicap, et de les faire grandir ensemble sur des thématiques. Donc, par exemple, une thématique, c'est de pouvoir mutualiser des postes administratifs entre elles. Voilà ce genre d'expérience. Donc là, on a tout un accompagnement, une sorte de coaching collectif, et puis surtout de l'interconnaissance entre elles. On a des projets aussi d'accélérateurs d'engagement, donc de pouvoir pareil faire grandir les entreprises en solutionnant leurs problématiques sur une journée avec plusieurs partenaires qui viendraient du monde. Il y aurait des dirigeants associatifs, des techniciens de ville, des élus, des experts comptables, des banquiers, etc. Et par petits groupes, chaque partenaire va apporter sa pierre à l'édifice pour solutionner la problématique du dirigeant. Là, on va commencer également un travail collectif pour les dirigeants des structures d'insertion par l'activité économique. Donc là, ce sont des dirigeants qui mettent, comme vous l'avez dit, l'humain au centre de leur projet, donc qui font travailler des personnes exclues du marché du travail classique, donc avec peu de diplômes, peu d'expérience. Et là, on va les accompagner justement sur l'amélioration de leur fonctionnement, et on va là aussi travailler par filière métier. Et donc là, je vais commencer celui de l'économie circulaire. Donc l'économie circulaire, c'est toutes les entreprises qui recyclent, voilà, qui récupèrent, recyclent, revendent les produits.
Et alors, tous ces dirigeants, c'est vous qui allez les chercher ou ce sont eux qui viennent à vous?
Alors, on va les chercher. On a des phases de communication, mais généralement, ils viennent à nous. Et puis, c'est un travail partenarial avec l'État, par exemple, avec la dette. Avec des collectivités locales comme Roissy Pays de France, Cergy Pontoise, et puis bien d'autres. Donc là, on a véritablement du travail en commun. On fait avec les partenaires locaux ces accompagnements-là.
Est-ce que ce dont vous nous parlez là tout de suite rentre dans ce programme d'incubateur émergence ESS ou c'est différent?
Alors, l'incubateur émergence ESS, c'est un programme qui a débuté en avril et qui consistait justement là à incuber à des porteurs de projets, donc qui étaient au stade de l'idée avancée, pour faire grandir leur projet à impact. Donc, on a sur les Yvelines et le Val d'Oise, on a une trentaine de personnes qui sont incubées actuellement dans Émergence ESS. Mmh. Et mes collègues font grandir de l'idée au projet jusqu'à la réalisation. Donc la fin de l'incubateur, c'est décembre 2025. Et après, certains vont pouvoir se lancer. Généralement, on a 50% de porteurs qui se lancent suite à l'incubateur. Les autres prennent souvent un peu plus de temps parce que la création d'entreprise, c'est quand même un chemin long, hein, en moyenne 9 mois, on dit. C'est un peu
avec
plus...
Avec beaucoup, parfois, d'obstacles.
Ouais, voilà, ouais. Avec des obstacles. Et nous sommes des facilitateurs. Nous essayons de sauter ces obstacles plus facilement pour les porteurs et les dirigeants.
Est-ce qu'il est encore temps de participer à ces promotions?
Alors, la promotion, la prochaine, ce sera à partir de janvier 2026.
Oui, d'accord.
Donc, les gens qui viennent nous voir, même s'ils ne sont pas dans le groupe, on peut les accueillir et justement de les faire grandir individuellement en fonction de leur avancée. Ils peuvent raccrocher les wagons, mais généralement, on va pas les laisser sur le côté. On va les accompagner, mais là de manière plus individuelle.
Et les critères pour participer?
Alors, pour émergence ESS, c'est d'avoir un projet à impact sur le 78 ou le 95. Si ce n'est pas sur le 78 et 95, on oriente vers nos collègues des autres départements, puisque c'est un programme régional. Et puis voilà, avoir un projet à impact, c'est-à-dire qui est là pour le bien commun de la collectivité.
Rodolphe, ce que je constate, c'est que j'ai du mal à trouver mes mots ce matin, que au fond ce qui résume un petit peu toute votre action, c'est de faire que les uns s'enrichissent avec les autres. C'est vraiment votre objectif.
Oui, dans l'accompagnement, c'est assez bien résumé, c'est même très bien résumé. Je crois que la réussite, en fait, des dirigeants, c'est pas de travailler seul dans son coin. C'est vraiment de pouvoir construire son projet individuel à l'aune du collectif. Et je le vois sur les accompagnements qu'on propose, par exemple, pour les structures d'insertion par l'activité économique, dans un programme qui s'appelle le dispositif local d'accompagnement. On les fait grandir tous ensemble pour des projets communs, mais ce projet commun va rejaillir également sur leur structure. Et d'une manière plus générale, à Initiative, la réussite des dirigeants, ça vient aussi de la mise en synergie avec avec nos partenaires, avec notre écosystème. C'est de leur faire rencontrer d'autres dirigeants, d'autres horizons, d'autres partenaires. Et chacun va s'enrichir et va apporter sa pierre à l'édifice. Donc c'est vraiment du commun qu'on arrive après à l'individuel.
C'est ça. Alors le dispositif local d'accompagnement, le fameux DLA, j'en dis un mot pour IDFM Radio, puisque nous en avons bénéficié aussi après que vous nous ayez aidés. Et c'est vrai que ça a vraiment été un plus, notamment pour notre demande de subvention auprès du ministère de la Culture. Ça nous a permis de vraiment avoir une méthode pour répondre à cette subvention. Donc c'était un très bel accompagnement, voilà. J'avais envie de le dire. Rodolphe, on marque une nouvelle pause et puis vous nous direz ensuite quels sont vos besoins professionnellement. À tout de suite.
D'où je viens? Très loin. Où je vais? Personne ne le sait. En attendant, je vous dis où je suis.
On dit souvent que j'ai l'air d'avoir tout pour moi, mais c'est sans savoir. Les fantômes qui me hantent, les réquiems que je me chante. Je joue dur chaque jour qui passe, et les pierres de chaque mur un jour se cassent. Je suis peut-être la roche qu'on croit, mais je suis plus fragile que je veux qu'on voit. Maman m'a dit avant de partir, monte jamais tes faiblesses et dans le pire, reste fort, avale tes larmes, car ta fierté restera ta plus belle âme. Donc je sais rire quand il le faut, mais faut pas croire, je craque dès qu'on tourne le dos. Je marche droit pour ne pas plier, d'ailleurs je chante souvent pour ne pas crier. Quand je pense à ma vie, je fais face à mes nuits. Chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le taire, je suis seul au monde. Je me sens seul au monde. J'haïs Noël et toutes ces bêtes fêtes de famille et tout ce qui rappelle ma plus belle vie. Je suis jaloux de vous les chanceux qui prenez votre chair et votre sang pour acquis. J'ai horreur de votre pitié, je prends très mal votre générosité. Ça fait déjà un bout que je me suffis, c'est pas vrai mais pour être fort, c'est ça que Dieu me dit. Qu'il arrive, faut que je reste dans mon rôle, ouais. Qu'il arrive, faut pas que je perde le contrôle, ouais. Je pense à moi avant le reste du monde, car avec les années je me suis rendu compte que si c'est pas moi, ce sera personne. Pas ni pas toi, ni personne. Ici bas c'est chacun pour soi, pour les pauvres et fiers solitaires comme moi. Quand je pense à ma vie, seul face à mes nuits, chaque jour qui se lève me dit que je suis seul au monde. Il n'y a rien à faire, je suis seul au monde. Je peux plus le taire, je suis seul au monde. Je me sens seul au monde. Chaque jour qui passe me dit. Seul au monde, je peux plus le taire. Je me sens seul au monde, seul au monde.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Nous venons d'écouter « Seul au monde » par Corneille, une situation qui ne risque pas de se présenter avec l'accompagnement des initiatives. Et si vous nous rejoignez jusqu'à 11h, c'est l'économie en direct sur IDFM Radio. Et j'ai avec moi toujours Rodolphe Nollet, responsable de l'entrepreneuriat engagé chez Initiative. Shafia Hamadi, chef d'entreprise, présidente de l'auberge du Château Bleu à Tremblay en France. Alors Rodolphe, même si Initiative est une grosse structure qui, on comprend, fonctionne à plein régime, c'est une structure qui a des besoins professionnels. Quels sont-ils ?
On a toujours des besoins, on a toujours des besoins de partenaires, d'avoir des gens justement qui vont nous accompagner, à accompagner nos dirigeants. Donc oui, on a déjà de se faire connaître, parce que on tourne à plein régime, mais je pense qu'on de faire connaître nos actions auprès des dirigeants ou des porteurs de projets, c'est important, leur dire que ça existe. Et puis surtout dans l'économie sociale et solidaire, et puis des bénévoles, des mentors qui vont pouvoir accompagner les jeunes pousses ou les dirigeants, apporter leur expérience. Ça, c'est toujours dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est important dans l'aspect collectif de la réussite d'un territoire.
Vous avez, je crois, une actualité à nous annoncer. Alors, sauf si on en a parlé, parce qu'il y a, on a parlé d'incubateur, mais il y en a un d'engagement en 2026. Est-ce celui dont on vient de parler ou c'est...
Oui, on en a parlé. Alors, tout est à construire. C'est surtout une volonté forte. C'est en construction. Je pense que si vous m'invitez en 2026 pour le présenter, je serai ravi.
Ah voilà, on va prendre rendez-vous avec grand plaisir. On a dit, enfin moi j'ai parlé des ateliers collectifs DLA, peut-être nous dire comment vous accompagnez aussi les structures d'économie sociale et solidaire employeuses avec ce dispositif local d'accompagnement.
Oui, alors sur le dispositif local d'accompagnement, c'est un dispositif national qui existe depuis plus de 20 ans maintenant, hein, qui est gravé dans la loi, et c'est un dispositif qui est là pour aider les dirigeants de structures d'entreprises de l'ESS, donc des associations, les coopératives, mutuelles, etc., à mieux fonctionner. Voilà. S'il y avait un résumé, ce serait mieux fonctionner. Donc certains dirigeants peuvent avoir des difficultés en gestion, des difficultés dans la communication, des difficultés dans l'organisation, donc sur les schémas salariaux par exemple, et ils ne savent pas faire. Ou se développer aussi, s'ils ont des projets, ils voudraient se développer, mais ils ne savent pas quelle marche suivre. Nous, on les accompagne, on diagnostique avec eux, c'est toujours sur la base d'un volontariat, oui. On diagnostique avec eux à 360 degrés la situation. En effet, souvent, la problématique de la dirigeante ou du dirigeant est celle qui avait été annoncée, mais des fois, on peut trouver aussi d'autres problématiques. Et on a la possibilité, nous, de faire appel à des experts, des consultants spécialisés dans le domaine qui bloque ou qui devrait être solutionné. Pour les aider à franchir ce cap. Donc, si c'est par exemple la communication, c'est quels outils de communication mettre en place, quelle posture commerciale je dois avoir pour avoir du public. Voilà. Donc ça. Donc c'est soit en individuel, soit en collectif. On a des ateliers sur le site d'Initiative. Les ateliers sont référencés. Donc c'est pris en charge par l'État et l'Europe.
C'est ce que j'allais vous
donc,
dire.
C'est
complètement gratuit.
C'est gratuit pour les dirigeants. Ouais, c'est pris ça. En charge par l'État et l'Europe. Et les collectivités et certaines collectivités locales que je vais citer, donc qui sont Roissy, Pays de France et Cergy-Pontoise.
Voilà, et encore une fois, je peux le dire, c'est vraiment un dispositif extrêmement important et qui apporte beaucoup. Si des auditrices et auditeurs nous écoutent et veulent faire appel à Initiative ou bénéficier d'un DLA, que faut-il faire, Rodolphe ?
Alors, nous contacter sur initiative95.78.fr, où là, on a toutes les coordonnées. Voilà.
Pour rentrer en contact avec une personne de votre équipe.
Exactement.
Merci beaucoup Rodolphe Nollet pour cette piqûre de rappel au sujet de l'entrepreneuriat engagé déployé par Initiative et puis félicitations à toutes vos équipes. Je ne vais pas citer le nom parce que c'est le moyen plus sûr d'en oublier, mais voilà, tous ceux qui œuvrent dans ce secteur en pleine émergence et nous on remercie encore et encore chez IDFM Radio. Il est temps de faire une nouvelle pause avec Kenji Girac et Maria Maria. À tout de suite.
Et ça recommence. Je lui parle d'amour que dans un silence. Mes yeux savourent son galbeuse des hanches. Entre méfiance et ce qu'elle en pense, je prends ses courbes et j'augmente mes chances. Je me demande ce qu'on fera comme folie. Des crampes, des torticolis. Je vais entendre toute sa mélodie. On y passera toute la nuit. Et comme toujours, ça recommence. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. C'est exceptionnel. Elle a peur d'avion mais veut toujours voler le septième ciel. Dire ce que je ressens, non ça ne vaut pas la peine. Elle me fait de scène 8 jours par semaine. En filature j'ai pris ses sentiments. En miniature j'ai pris des photos d'elle. Je suis le meilleur, elle le fait que c'est impossible. Je dis à tout à l'heure, elle me dit je serai pas là. Dans son cœur y'a de quoi faire des ricochets. Il n'y a plus d'amour, y'a que des états d'âme, d'âme. Je veux que tu meurs de moi, moi. Serre-moi contre toi, toi. Je veux que tu meurs de moi. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, Maria, Maria. Dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Es que María, tú me bailas de locura. En la temperatura como la noche está dura. Y es toda una aventura, más rica que pura. Mírame María, con tu cuerpo tú me curas. Y tra, 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 y yo tra, tra. María, María, María. Dimos que tu veux faire dans le noir. María, María, María. Dimos que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 dis-moi ce que tu veux faire dans le noir. Maria, 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 j'ai dit.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Jusqu'à 11h, c'est l'économie en direct et c'est sur IDFM Radio, en FM, en web radio, DAB+, et sur notre appli avec à mes côtés ce matin Rodolphe Nollet, responsable de l'entrepreneuriat engagé chez Initiative, et Shafia Hamadi, chef d'entreprise, présidente de l'auberge du Château Bleu à Tremblay en France. Mais IDFM Radio, c'est aussi des annonces pour nos partenaires Et avant de poursuivre cette émission, Shafia m'a dit, je vous partage un communiqué de presse du CEVO pour son prochain apéritif contact qui aura lieu demain, 21 mai 2025. Donc le thème, c'est ChatGPT au service des TPE-PME. Quels usages concrets et quelles erreurs à éviter pour enfin en tirer profit dans son activité. Et c'est animé par Michael Guillois, gérant de Happy's IA et réseaux sociaux. La participation est gratuite, mais il faut quand même s'inscrire au préalable auprès du CEVO. Merci d'avoir écouté ce communiqué de presse. Alors Shafia Hamadi, comme j'ai dit en préambule, j'avais eu le plaisir de vous accueillir l'année dernière lors d'une émission spéciale CPME consacrée au territoire de Roissy. Et depuis, oui. Vous avez entamé un autre parcours. Donc je vous laisse nous résumer ce parcours.
Depuis le... Bonjour Jacqueline, bonjour tout le monde. Depuis le 10 avril, oui, effectivement, une nouvelle aventure comment débute pour moi à Tremblay en France, à la ville de Tremblay, que j'ai ouvert un restaurant gastronomique à Tremblay en France, l'auberge du Château Bleu,
ouais.
Depuis le 10 avril avec un chef Younes Khalil qui est incroyable. On fait un bon binôme ensemble. Donc c'est à côté d'un centre équestre, le site est magnifique. C'est verdoyant, on a l'impression d'être à la campagne, on a l'impression d'être à Chantilly.
Alors qu'on n'est pas si loin de Paris.
À deux pas de Roissy, et à 30 minutes, il y a encore 20 minutes de Paris qu'on ne s'est pas bouché. Donc voilà, c'est une belle aventure qui commence pour moi depuis un mois. Donc j'ai un petit hôtel, j'ai des granges, j'ai de quoi faire des séminaires, j'ai de quoi m'éclater. Donc voilà. Maintenant, il faut du personnel.
Oui, bien sûr, bien sûr. On en parlera. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a amené à diriger justement cette auberge du Château Bleu?
C'est mon métier. Depuis plusieurs années, je suis professionnelle de la restauration. Et je cherchais un site à reprendre aux alentours de Roissy, parce que j'ai ma clientèle. Et j'ai vu un commerce sur Tremblay en France, que j'ai pas pris, parce qu'il y avait beaucoup de travaux. Et je remercierai jamais assez la mairie de Tremblay de m'avoir guidée sur l'auberge du Château Bleu qui était à vendre.
D'accord.
Parce qu'il faut savoir que les murs appartiennent à la mairie de Tremblay en France.
Ouais.
Et donc j'ai racheté, bien évidemment, le fonds de commerce.
Le fonds de commerce.
Voilà.
Ouais.
Donc voilà.
Donc c'était, pour vous, c'était une évidence d'avoir un jour votre propre établissement?
Bien évidemment, ça mais c'est ma passion. Donc je suis passionnée de cuisine, de vin, manger les produits de saison. Donc c'est ce que je fais justement actuellement. Comme je suis le chef d'orchestre avec mon chef Younes, on fait des produits de saison, des petites cartes. Donc voilà. Donc c'est on essaye de revenir à notre gastronomie française terroir et surtout de saison. Donc
c'est
actuellement,
ça, c'est
la saison de la morue, des petits pois, des fèves et de la lotte. Donc
des vrais produits de saison.
De la morue, des vrais produits de saison, et on change la carte tous les 2-3 mois parce que ça c'est ce qui me représente.
Bien sûr. Ouais,
c'est ce qui nous représente d'ailleurs. Ouais.
Alors, vous l'avez dit, c'est un cadre plaisant, c'est aussi le choix d'un chef qui doit être à la fois un meneur d'hommes et puis inventif.
Oui.
Et comment avez-vous rencontré Younes?
Il a déposé sa fille au centre équestre.
D'accord.
Et donc, il a postulé à l'ancienne, comme ça, et on s'est contacté comme ça. Donc,
voilà.
Et pourtant, j'ai passé des annonces, j'ai fait des recrutements, et vous voyez, c'est des fois, parfois...
C'est le hasard qui a bien fait les choses.
Oui, c'est le hasard qui a fait bien les choses. Et hier soir, un client m'a dit, j'étais très touchée, j'ai bien dormi d'ailleurs, en disant que c'était une carte incroyable et que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas aussi bien mangé.
Ah, ben bravo.
Donc, j'étais très contente.
Un vrai compliment.
Mais c'est vrai que j'ai un chef qui est vraiment top et je suis très heureuse de l'avoir avec moi et on fait une belle équipe.
De vous être rencontrés.
Oui, c'est ça.
Donc, est-ce que c'est lui qui établit la carte, hein?
Généralement, oui, mais je valide quand même un petit peu.
C'est vous qui restez la maîtresse de maison.
Je valide quand même un petit peu, mais c'est vrai qu'on s'entend super bien. Donc ça va, là-dessus, je lui laisse toute sa place, bien évidemment. C'est lui le chef d'orchestre, comme vous dites, mais c'est vrai que j'ai un petit peu mon mot à dire.
Donc, bien sûr.
Il me laisse faire aussi, donc on s'entend
comme
bien.
Comme je dis, vous restez la maîtresse de maison. Alors moi, j'invite vraiment nos auditrices et auditeurs à aller sur votre site parce que j'ai vu des photos de plats qui donnent envie. Vous nous donnez des exemples de plats?
Oh là, celle-là, c'est la saison de la morue, donc on fait de la morue farcie.
Oui.
Après, c'est des printanières de légumes, des riz de veau, on fait des filets de bœuf au morue, enfin, c'est du foie gras maison. On fait une fricassée de couteaux, c'est la saison des couteaux aussi. Oui. On mange pas tous les jours des couteaux avec des poireaux, enfin, pareil, c'est des produits de saison. Des asperges, c'est la saison de l'asperge, donc, et on change dans 2 semaines, on va changer la carte parce que c'est plus les produits de saison. Parce que leur morue reste une semaine, une dizaine de jours.
On a faim, hein, Rodolphe, d'un coup là. Il fait faim. Voilà.
Après, on va passer aux produits d'été parce qu'après, il faut préparer le summer body.
Oui, c'est ça.
My English is so bad. My action is bad. Donc, il faut préparer l'été. Donc, on va passer aux tomates burrata.
Oui, ça peut être très bon aussi.
Oui, c'est frais, c'est bien.
Et puis, il y a la partie hôtellerie.
Oui.
Et ça, vous l'aviez envisagé au départ ou c'était un défi à relever en même temps que le restaurant?
C'était pas prévu au départ, mais quand je suis arrivée, quand j'ai visité le site, je suis tombée amoureuse de ce site. Donc, bien évidemment, si on prend le restaurant, on prend également les chambres. Donc, j'ai 5 chambres qui sont magnifiques. Je suis relativement complète tout le temps parce que, si vous voulez, les corporate, les chefs d'entreprise, il n'y a pas beaucoup d'hôtels comme ça où on a une vue sur un site verdoyant, des chevaux le matin. Il n'y a pas beaucoup de bruit parce qu'on est à 2 pas de Roissy, mais on n'entend pas les avions. Vous voyez, c'est très agréable. Hier soir, j'étais complet. J'avais une équipe suisse qui avait leur société sur Villepinte. Ils m'ont déjà réservé pour la prochaine fois parce qu'ils m'ont dit que c'était incroyable.
Ils ont adoré.
Oui, c'est ça. Donc, c'est bien. Je suis contente.
Shafia, je propose qu'on fasse une pause et puis on va parler financement de cet établissement.
Parfait.
À tout de suite, dans quelques minutes.
Merci.
Est-ce que j'en ai les larmes aux yeux? Nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu, puisque je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Est-ce que je rampe comme un enfant? Est-ce que je n'ai plus de chemise? C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver, puisqu'il faut qu'il y ait une justice? Je suis né dans cette caravane, mais nous partons, allez viens. Allez viens. cette caravane. Et nous partons, allez viens.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
C'était Raphaël et son titre Caravane. C'est l'économie en direct, toujours sur IDFM Radio, avec à mes côtés Rodolphe Noller, responsable de l'entrepreneuriat engagé chez Initiative, et Shafia Hamadi, chef d'entreprise, présidente de l'auberge du Château Bleu à Tremblay en France. Une auberge dont rêvait Shafia un petit peu, et un rêve qui vient de se réaliser. Alors Shafia, acheter comme ça un hôtel-restaurant, c'est pas anodin. Ce que je ne savais pas avant de vous inviter tous les deux, c'est que bien vous, Shafia, vous aviez été également aidée par Initiative. Donc j'adore quand il y a cette connexion entre mes invités. Et donc parlez-nous du financement de cet hôtel-restaurant.
Ça a été compliqué, ça a été très 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 dur, comme vous pouvez le souligner, parce que
c'est un montant important, j'imagine.
Très important, et les banques, c'est simple, ils prêtent plus à la restauration.
Elles sont
très frileuses, les taux sont très élevés. Donc heureusement, la mairie de Tremblay en France m'avait guidée vers Initiative Saint-Denis, Île-de-France Transmission, BPI France. Donc ils m'ont donné un gros gros coup de main, et je les remercierai jamais assez. Et donc voilà, les membres du jury m'ont accordé une belle somme pour débuter ce beau projet, et je peux dire que c'est grâce à Initiative que j'ai ce projet, oui, ça on peut le dire, parce que ça donne beaucoup beaucoup d'oxygène, et pour l'ouverture, et ça rassure aussi un petit peu les banques, parce que voilà, donc j'en ai fait beaucoup de banques, plusieurs banques, et
aucune ne vous accordait le
sauf
prêt.
LCL du coup, qui m'a accompagnée dans mon projet, donc LCL de Villepinte, donc ils m'ont, mais c'est vrai que même eux ils y croyaient au projet, parce qu'ils ont vu le lieu, je les ai invités, j'ai fait du forcing. Je les ai invités une matinée à visiter le site pour j'ai mis toutes les chances de mon côté, et c'est vrai que ça a payé, et je suis très contente, et je les remercierai jamais tous assez.
C'est ce qu'on disait avec Rodolphe au début de l'émission, c'est l'Initiative, c'est vraiment un levier auprès des banques,
Et j'espère le 12 juin à partir de 19h, ça sera l'inauguration du Château Bleu. Et je serais très ravie de les avoir tous pour voir qu'ils font.
Que ce qu'ils font, c'est concret.
C'est ce qu'ils font, c'est concret. Et surtout, ils donnent le sourire, ils nous donnent beaucoup d'oxygène, et ça nous permet de se lancer. D'avoir les reins solides, et qu'ils soient un petit peu fiers de ce qu'ils font, ils se lèvent le matin, ils se disent bon, on a aidé quelqu'un, et le projet a abouti, et voilà quoi, c'est important.
C'est une belle analyse. Alors vous nous avez dit hors antenne que en fait vous avez signé le 10 avril, et vous avez ouvert le 15, mais donc vous aviez quand même tout préparé en amont, vous saviez que vous alliez signer.
Oui, bien sûr.
Il y a toujours quand même un temps de latence.
Ça a été très compliqué jusqu'à 20h, j'ai eu des grosses sueurs, mais c'est vrai que on le sait un petit peu quand même qu'on signe, mais on engage beaucoup de sous, on engage beaucoup d'argent, moment et on prend des risques, c'est des gros risques qu'on prend, donc oui, et surtout que bah on roule pas sur l'or, donc oui, il faut vite ouvrir. Heureusement que le site était exploitable, donc tout de suite, donc oui, c'est vrai que j'ai très peu dormi en 3 jours et j'ai ramené tous les amis, tous les copains pour faire le ménage, ranger la cave à vin, faire à manger, faire la plonge, donc heureusement j'ai une bande d'amis qui sont incroyables.
Donc, oui, parce que vous disiez que la difficulté justement c'est de gérer les besoins en main d'œuvre qualifiée, oui, pour un tel établissement.
Oui, actuellement je recherche un second de cuisine, un chef de partie, un commis de cuisine, un directeur adjoint, un chef de rang, une réceptionniste, vous voyez, c'est donc, plongeur.
Parce que là aujourd'hui vous êtes l'équipe est composée de combien de personnes?
Actuellement j'ai mon chef cuisine et 3 autres personnes, 2 en cuisine, une personne en salle, et plus moi. Mais c'est pas suffisant parce que il y a beaucoup de demandes et parfois je refuse parce que je ne veux.
Vous n'avez pas le personnel adéquat.
Voilà. Ouais. Donc,
Et pourtant, vous êtes dans ce secteur de Roissy, il doit y avoir quand même du personnel qui recherche, non?
Oui, après, ce sont des villes qui sont mal desservies, enfin, bien desservies, mais le soir, c'est un peu compliqué. On fait un métier qui n'est pas facile, donc c'est des horaires.
Avec des horaires compliqués.
Très tard. Donc, c'est vrai qu'à partir d'une certaine heure, il y a moins de transport, donc c'est une difficulté. Et puis, on a beaucoup de concurrence aussi, hein. Il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup d'hôtels et beaucoup de restaurants sur le secteur de Tremblay et de Roissy. Donc, oui, effectivement, c'est un peu plus compliqué, surtout nos jeunes, ils veulent plus, enfin, que ce soit nos jeunes ou autres d'ailleurs, ils ne veulent plus faire ce métier parce que c'est beaucoup de contraintes.
C'est trop compliqué.
C'est trop compliqué, il faut vraiment être passionné comme moi pour faire ce métier.
Donc, voilà. Oh, je pense que avec là, donc vous avez ouvert, ça fait un mois pratiquement.
Un mois, oui.
Peut-être qu'avec un peu de recul, ces personnes vont analyser votre parcours et puis vont être tentées de vous rejoindre.
Ben, j'espère bien. En tout cas, c'est une maison qui a du cœur, donc il faut venir travailler avec moi.
Qui mérite.
Moi, avec mes collaborateurs, généralement, on s'entend très bien.
Shafia, je propose qu'on fasse une courte pause et je voudrais qu'on revienne parce que je pense que vous êtes peut-être par obligation, mais peut-être aussi par choix. Votre établissement va dans une direction d'économie durable et puis peut-être inclusive. Donc, on en parle dans quelques minutes.
À tout de suite.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct sur IDFM Radio et je suis en interview avec Shafia Hamadi, présidente de l'auberge du Château Bleu à Tremblay en France. Shafia, on a beaucoup parlé d'économie sociale et solidaire avec Rodolphe.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire que vous-même, vous êtes un petit peu dans ce schéma?
Oui, beaucoup. Oui. parce qu'on fait un peu de recyclage quand même. On fait un peu de, enfin, on fait attention maintenant parce que
c'est des obligations même.
C'est,
hein, je
c'est
crois.
Des obligations, oui, oui. Ce sont des obligations, mais en même temps, c'est pour des règles d'hygiène et de sécurité, il vaut mieux le faire. Et puis, ce que j'ai appris il y a pas si longtemps, c'est qu'on peut recycler les déchets organiques. C'est bien ça, Rodolphe. c'est ça. Donc oui, ce qui m'a aidé ce matin à trouver le mot organique. Donc je trouve ça génial parce que moi j'ai toujours l'habitude d'ailleurs de travailler avec des petites fermes ou autres avec le pain parce qu'on on jette beaucoup.
C'est
on,
ça
on
la,
se rend
la,
pas compte la... mais on jette beaucoup et voilà. Donc,
la gestion d'un restaurant c'est aussi de gérer les déchets parce que vous avez quand vous faites vos achats le matin vous ne savez pas forcément c'est vos repas c'est uniquement sur réservation ou les gens peuvent venir comme ça à l'improviste.
Ils peuvent venir à l'improviste donc si vous voulez on essaie de gérer comme on peut.
On les stocks.
Et donc, je ne travaille que des produits frais. Ça veut dire que tous les matins, je suis livrée de 10 filets de poisson, de 10 entrecôtes, ou filets de bœuf. Mmh. J'achète piécé, comme ça,
Vous êtes sûr de...
Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est le risque. Donc voilà. Et généralement, on a ces 24 heures pour vendre, donc on peut toujours se rattraper le lendemain, mais pas plus.
Pas plus.
Donc surtout quand on fait des produits frais, et que ce soit en fruits et légumes, on ne reçoit pas forcément des légumes tout beaux, tout frais, comme on voit à la télé, comme on voit dans les supermarchés, parce qu'on a tendance à travailler avec nos producteurs du coin.
En circuit court.
Voilà, donc on a des pommes qui ne sont pas très belles et parfois il y a quelque chose de... Enfin, il n'y a que la moitié qui est bien, mais c'est bio, c'est dans le 95, c'est dans le 60, c'est dans le 77, donc c'est des petites fermes comme ça. Nos morilles viennent du Vexin, vous voyez, c'est des... Voilà, on essaye de faire travailler nos petits partenaires... pour qu'on vive tous ensemble longtemps. C'est vrai que certaines fermes viennent chercher, récupérer tout ce qui est légumes, fruits, les déchets.
Ah, très bien.
Organique.
Oui.
Il y a pas assez longtemps, j'ai appris que c'est les grosses sociétés qui passent une fois par semaine également. Donc, et là, ils prennent absolument tout, même tout ce qui est viande, etc. Et ça, c'est très bien aussi.
Bien sûr.
Ça nous permet de moins jeter et de mieux recycler. Ça fait plus propre sur le parking.
Je crois que Rodolphe, quand on en a parlé avant l'émission, vous nous avez parlé d'une entreprise qui récupérait des déchets, justement. Il me semble que j'ai entendu ça quand on parlait de pain.
Oui, par exemple sur le pain qui peut être récupéré, peut être donné à certains animaux.
Oui.
Donc il y a des fermes pédagogiques par exemple qui récupèrent du pain ou des épluchures de légumes, etc. Et pour le pain, certaines microbrasseries, alors. Je ne sais pas si en Île-de-France il y en a, mais je sais que dans le Nord ça existe. Ils en refont de la bière, par exemple.
Donc
ils viennent rechercher le pain des restaurants, des grandes centrales aussi, les cantines scolaires pour le recycler dans un produit.
Pour s'approvisionner eux-mêmes de matières premières, en fait.
Rien ne se paie.
Oui, c'est ça. C'est bien. Oui. Mais alors, merci, Rodolphe, pour cette précision. Shafia m'a dit... vous nous parlez de ces producteurs locaux, ça veut dire que vous les connaissiez avant d'ouvrir le restaurant, vous les avez découverts depuis ?
C'est mon chef, plus exactement, qui a déjà travaillé, parce que c'est très compliqué aussi pour nous, pour des règles d'hygiène, de transport.
Bien sûr.
C'est pas avec tous les producteurs d'à côté qu'on peut travailler, même si pour nous, on va chercher chez notre fermier, mais moi, je ne peux pas aller chez mon fermier, des œufs ou du lait et le revendre restaurant, c'est strictement interdit. Donc il y a des petits producteurs qui sont agréés et c'est vrai que mon chef, effectivement, les connaissait sur le secteur de 77, le 60, 95. Dans nos petites campagnes à côté.
Ouais.
Donc je les connais maintenant, mais avant non.
Non, c'est non, ça. Donc, quand vous étiez dans un autre établissement, vous ne travaillez pas forcément avec eux.
Non.
C'était pas le.
Ouais. Si vous voulez, c'est effrayant un petit peu parce que on entend parfois on entend un petit peu à la télé le gouvernement nous dire qu'il faut faire travailler les produits de proximité, mais on peut pas parce que pour des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire...
Il faut être sûr qu'ils respectent les normes.
Même s'ils respectent, même si c'est bio, même si tout ce que vous voulez, c'est pour ça que ça c'est un point qui m'énerve un petit peu, parce que c'est dommage, parce que moi, je trouve que je pourrais aller chez mon boucher, acheter une bonne viande et une bonne saucisse, et faire travailler mon boucher et mon producteur de lait et des œufs. J'entends que c'est assez compliqué, mais si on suit la traçabilité, je pense qu'il n'y a pas mort d'homme non plus. Donc, mais c'est vrai que nous, en tant que restaurateurs professionnels, on n'a pas le droit.
D'accord.
Il faut le macaron Rungis.
Oui, d'accord. Ah oui, c'est carrément, vous n'avez pas le droit.
Oui, on n'a pas le droit, ça dépend, mais oui, non, mais faut éviter, quoi. Parce que c'est la chaîne.
C'est ça.
On casse la chaîne de froid, etc. Enfin, c'est C'est plein de petits détails.
Oui, il vaut mieux pas risquer un contrôle. Hein,
mais je trouve ça dommage parce que du coup, parce qu'il y a que moi qui peux, enfin les personnes professionnelles comme moi qui peuvent acheter à mon producteur d'œufs ou de lait ou de beurre à côté des quantités qui lui permettront de survivre,
de vivre
ou de survivre, parce que parfois dans l'agriculture actuellement on entend survivre que de vivre, donc c'est bien dommage parce que voilà, c'est ça.
Il faut en parler dans les hautes sphères, hein. faut le signaler. Après un mois d'exploitation, donc un bilan positif, vous êtes contente?
Très positif, très contente. Je touche du bois, mais c'est très positif, je suis très contente, vraiment c'est un bonheur et j'espère que ça va continuer comme ça.
Il n'y a pas de raison, parce que le bouche à oreille doit bien fonctionner dans ce milieu.
Oui. J'ai une belle clientèle. J'ai tous mes clients qui me suivent depuis une dizaine d'années. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, ouais, c'est. Et là, je retrouve une autre clientèle aussi, d'autres clients. Et je suis très contente parce que le lieu est magique.
C'est ça. Bon, ça nous donne vraiment envie de le découvrir. Votre ambition pour les prochaines années?
Continuer comme ça. Ouais. et puis évoluer, faire grandir cette belle auberge et que ça soit.
Vous auriez la possibilité d'agrandir la salle ou?
Oui,
vous y pensez déjà.
Ouais, c'est ça. Je prévois peut-être avec l'accord de la mairie de Tremblay de faire un peu plus de chambres, de faire un peu plus une véranda. Mmh. Que c'est pour l'été et l'hiver, donc on a tout pour. Donc, affaire à suivre. Je reviendrai vous en parler si vous m'invitez, Jacqueline.
Vous reviendrez avec Rodolphe quand parlera du programme Émergence.
C'est ça.
Merci infiniment, Shafia Madi, pour cette présentation de l'auberge du Château Bleu.
Merci. À vous,
peut-être nous donner l'adresse exacte.
C'est aux deux chemins des Saint-Pères à Tremblay en France, l'auberge du Château Bleu.
Très bien. Et puis, félicitations, vous aussi, d'avoir relevé un tel défi. Longue vie à votre
merci
établissement.
Beaucoup. Merci.
Voilà, l'émission se termine toujours avec un mot de conclusion. On fait une pause avant et puis je vous retrouve pour ce mot de conclusion. À tout de suite.
À tout de suite.
Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop. Tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui comme. Si tu le veux, prends, je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là.
Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là.
Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner.
Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer.
Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui comme. Si tu le veux, prends.
Je te le donne.
sentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là.
Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas.
Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui gomme. Si tu le veux, prends.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
Bientôt la fin de notre émission L'économie en direct sur IDFM Radio, au cours de laquelle nous avons pu écouter Rodolphe Nollet, responsable de l'entrepreneuriat engagé chez Initiative, et Shafia Hamadi, chef d'entreprise, présidente de l'auberge du Château Bleu à Tremblay en France. Et je pensais, voilà, je viens de réaliser que Tremblay en France est dans le 93, alors que pour moi c'était dans le 95, mais c'est très limite, hein, je crois. Voilà, donc on arrive à la fin de cette émission. Peut-être un mot de conclusion avant de nous quitter. Rodolphe.
Alors le mot de... Je vais être très rapide. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité. C'était très, très intéressant. J'ai pu découvrir une nouvelle entreprise dans le 93, mais en effet à la limite du 95. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on... On travaille, on agit, on entreprend sur un territoire magnifique qui pourrait l'être encore plus. Et c'est vrai que nous, on essaye de par nos actions à aider les entrepreneurs à la réussite. Et comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une réussite collective faite d'hommes, de femmes, de partenaires, d'entrepreneurs qui s'enrichissent mutuellement. Après, les outils, voilà, c'est la cerise sur le gâteau. Mais je crois vraiment que cette force, c'est tout ce qui est collectif.
Tout ce qui fait la richesse de notre territoire.
C'est ça.
D'ailleurs, je me disais en vous écoutant, Rodolphe, que j'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui ait dit du mal d'Initiative. À chaque fois, les gens sont plutôt volubiles sur votre structure. Hein.
Oui, bah on a sûrement que certains ne nous aiment pas, en tout cas ils ne nous disent pas.
Mais non,
on travaille toujours dans, alors c'est un terme un peu galvaudé qu'on utilise partout, mais dans la bienveillance et puis toujours à l'appui de son prochain. Donc c'est vraiment la réussite. C'est vraiment la réussite de l'autre qui nous importe.
C'est vraiment ce qui vous définit. Je confirme. Merci infiniment, Rodolphe, de votre venue.
Merci à vous.
Shafia Hamadi, le mot de la fin, c'est pour vous.
Merci Jacqueline pour l'invitation. Merci de mettre mon projet en lumière. Avec mon chef Younes Khalil, nous voulons faire du Château Bleu un lieu de vie, de rencontre et de transmission, un lieu où on se sent bien. Donc j'espère que ça va durer pour quelques années.
Ce qui est déjà le cas, hein, je crois, j'ai cru comprendre.
C'est ça, j'espère que ce sera pour quelques années. Je remercierai jamais encore une fois assez les personnes qui m'ont soutenue dans ce projet et les associations qui m'ont donné un gros coup de pouce pour ce projet, Initiative 93 Saint-Denis et Transmission Île-de-France, BPI France, la ville de Tremblay, toutes ces personnes, peut-être certains je les oublie, mais je les remercierai jamais assez. Et j'espère revenir vous voir dans quelques années, Jacqueline, et vous m'inviterez pour vous dire à quel point ça a évolué.
Bon, on va dire que c'est parce que vous le méritez bien.
C'est gentil, j'espère bien.
Voilà. Encore un grand merci à vous, à tous les deux, pour votre participation, puis vos insights précieux. Et puis, d'une certaine façon, on a pu voir comment l'entrepreneuriat engagé, l'hôtellerie, restauration, finalement, se complète pour créer un avenir plus durable et inclusif. Hein. Donc, merci infiniment.
Merci.
Merci à tous nos auditrices, auditeurs qui nous écoutaient à chaque fois aussi fidèlement. Merci Francky pour la technique. Et puis si cette émission vous a plu, eh bien n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez son podcast sur le site et l'appli de IDFM Radio. Et moi je vous dis à vendredi prochain à 9h30. Bonne journée et belle semaine.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.